C'est la précision.
Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir du public de nouveau dans notre amphithéâtre et d'accueillir les internautes également qui nous suivent sur YouTube en direct ce soir, donc pour cette conférence publique mensuelle de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, comme je disais, c'est diffusé. Alors, les gens qui sont ici à la fin de la conférence pourront discuter avec notre oratrice, faire des commentaires, poser des questions. Et les personnes qui nous suivent à distance en direct sur YouTube, n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre des commentaires, poser des questions. Et à la fin, je retranscrirai également les questions à notre oratrice. Un petit mot pour notre prochaine conférence qui sera le 3 mai prochain. Elle sera donnée par notre collègue Florent Delfly de l'Observatoire de Paris. Il nous parlera des débris spatiaux, une histoire des collisions orbitales. Donc les réservations seront à partir de demain sur notre site web comme d'habitude. Et la dernière conférence de la saison sera le 7 juin prochain. La programmation a un peu changé, donc la dernière conférence de la saison sera annoncée très prochainement sur notre site web. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rosine Lallemand. Donc Rosine est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle travaille au GEPI à l'Observatoire de Paris. Dans le passé, elle a travaillé au service d'aéronomie à Verrières-le-Buisson, au Latmos. Et pendant quelques temps, je l'ai appris, je ne le savais pas, tu as travaillé pendant quelques temps à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Longtemps.
Il y a quelques années. Et puis, donc tes spécialités, c'est donc tu travailles sur les interfaces entre le Soleil et son environnement galactique, notamment le contenu en gaz, en poussière du milieu interstellaire, de toute cette matière qui nous entoure et dont tu vas nous parler ce soir. Tu fais ça notamment par le biais d'observations. Tu as beaucoup utilisé des observations au sol, notamment à l'Observatoire de Haute-Provence, et puis énormément d'observations spatiales, dont tu vas parler notamment ce soir. Tes travaux t'ont valu plusieurs prix, notamment la médaille d'argent du CNRS. L'année dernière, le prix de l'Académie des sciences CNES Astrophysique et Sciences Spatiales. Et donc ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Le milieu interstellaire galactique, l'apport de Gaïa ». Je t'en prie.
Alors bonsoir à tous. Vous m'entendez bien là ? Oui, il faut. Ça va, comme ça ? Ce soir, je voudrais vous parler de Gaïa et de l'apport de Gaïa. Alors Gaïa, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une mission de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, absolument exceptionnelle, à tout point de vue, pluridisciplinaire, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et surtout, alors là, un petit cocorico, parce que c'est une mission qui a une grande inspiration française, pas loin d'ici, l'Institut de mécanique céleste, enfin, il y a une tradition en France dans les mesures de l'astrométrie, donc c'est vraiment une mission à grosse participation intellectuelle, disons, française, et effective, parce qu'en fait, les équipes qui travaillent sur cet énorme afflux de données qui vient de Gaïa, qui est en cours, hein, c'est été lancé en 2013, ces équipes sont très fortement françaises. Donc, c'est vraiment... Gaïa, c'est un peu le fleuron de l'astronomie française. Alors, je vais vous parler de ce soir d'un aspect de Gaïa, qui n'est pas le centre, qui n'est pas le cœur de science de Gaïa. Le cœur de science de Gaïa, ce sont les étoiles et la formation, l'histoire de la galaxie. D'ailleurs, Gaïa est en train de révolutionner ce domaine. Ça bouillonne, ça publie dans tous les coins, c'est en effervescence. Mais mon sujet, plutôt, c'est je dirais pas un sous-produit, mais c'est quand même quelque chose qui est moins directement le centre de Gaïa, qui est la matière interstellaire. Donc pas les étoiles, mais ce qu'il y a entre les étoiles. Alors, une galaxie, là j'en ai pris une jolie, qui ressemble un petit peu, spirale barrée, qui ressemble un peu à la nôtre. Et celle-là, on a l'avantage de pouvoir bien la photographier, c'est une belle image de Hubble. Et elle a l'avantage de montrer les différents aspects d'une galaxie, tout ce qu'il y a, et la complexité. Alors, il y a les étoiles. Alors, en particulier, là j'ai fait un petit zoom, la lumière bleue, ce sont les jeunes étoiles qui émettent une lumière très bleutée, qui sont très chaudes, donc on les voit sur cette image. Il y a le gaz, qui ici est, on le voit, est repérable à l'émission rouge des régions où il y a de l'hydrogène qui a été ionisé. Donc il y a les étoiles, le gaz et... La troisième composante, ce sont les poussières, les grains de poussière. Et les grains de poussière, ils n'émettent pas, au contraire, ils absorbent, ils opacifient, ils absorbent la lumière. Donc on les voit comme des traînées, en fait, sombres, qui parsèment les régions, les bras spiraux et des galaxies. Alors, le gaz et les poussières, c'est ça qu'on appelle le milieu interstellaire. Il y a gaz et poussière. Et le but, un des buts en astrophysique, qui est un des grands piliers fondamentaux, les questions qu'on se pose, c'est de bien comprendre dans le détail ce qui gouverne la formation des galaxies, dans les galaxies, la formation des étoiles à partir du gaz et des poussières, et qu'est-ce qui va gouverner le démarrage, l'arrêt de cette formation d'étoiles, les rôles respectifs, justement, des gaz, des poussières, du champ magnétique, des environnements. Je ne parle pas de la matière noire qui a aussi, bon, ça c'est qu'on ne voit pas, qui a une influence sur la formation de la galaxie et la façon dont ça évolue. Et on essaye de comprendre tout ça. Alors quand on la regarde, on se dit, oh là là, c'est compliqué. Mais M. Jean Perrin, j'aime bien cette citation qui dit que la science s'est remplacée du visible compliqué par de l'invisible simple. C'est-à-dire, si on trouve les lois de formation, c'est plus simple. Alors, le milieu interstellaire, il y a toutes sortes de phases. Dans ce schéma-là, je vais du plus diffus, le plus ténu, disons, jusqu'au plus dense. Et vous voyez qu'il y a une grosse diversité. Plus on va vers les régions denses, vous pouvez remarquer que moins il y a d'étoiles. Et quand on arrive ici, vous voyez mon curseur là, quand on arrive dans ces, vous reconnaissez peut-être la tête de cheval là, ici, quand on arrive dans ces régions, ici vous voyez que dans les régions très très denses, la poussière est tellement épaisse, il y a tellement de poussière associée au gaz, que les étoiles ont leur lumière complètement absorbée et c'est le noir. Alors ça, c'est un nuage bien connu. Alors, un des avantages, ça c'est l'inconvénient. L'inconvénient de la poussière, ça bloque la vue, c'est embêtant. Mais en même temps, mesurer, et c'est ça qui va être un peu le sujet, mesurer la façon dont la poussière atténue la lumière, ça va nous donner une information sur la quantité de poussière. Or, c'est ce qu'on veut. On voudrait savoir où il y a du gaz, de la poussière, etc. Donc... Ah, mais c'est moi qui bouge trop.
Non, c'est pas ça, c'est que le système marche pas très bien. C'est pas... Est-ce que tu peux me mettre sur mute, déjà, juste le temps que je bricole? Non, il y a sur l'émetteur, là.
Attends, je vais ressortir.
On s'en prenne trop plein les oreilles, excuse-moi.
Non, mais c'est moi, en fait, j'ai fait une bêtise. C'est que j'aurais dû le mettre de l'autre côté, comme ça, non?
Peut-être, je sais pas.
Bah oui. Ouais. Bon, je bouge plus. Donc ici, vous voyez que quand on a ces grosses obscurations d'étoiles, finalement, ça nous permet d'avoir la quantité de poussière. Alors, ce nuage, c'est un petit chouchou des astronomes, parce qu'il n'est pas loin de nous, il est à seulement 125 parsecs, ça c'est un gros nuage dense, Barnard 68, qui est un peu le prototype des nuages sombres. 125 parsec, je vous rappelle, un parsec, c'est 3 années-lumière à peu près. Donc ça fait 300-400 années-lumière, donc ce n'est pas très très loin. Et vous voyez sur ces images, celle de gauche, c'est une image en visible, et celle de droite en infrarouge, du même nuage. La différence, vous voyez, est frappante, c'est-à-dire dans le visible, on ne voit aucune des étoiles qui est derrière le nuage, aucune. Tandis que si on regarde, on fait une photo, on observe dans l'infrarouge, on observe des étoiles. Donc ça veut dire que la quantité d'absorption par la lumière, par les poussières, de la lumière infrarouge est plus faible que l'absorption dans le visible. Et ça, on va s'en servir aussi, ça va être très important. En même temps, vous pouvez remarquer sur cette image, ici à droite, que les étoiles qui sont derrière le nuage, qui donc sont très absorbées par la poussière, dont la lumière est très absorbée par la poussière, ces étoiles sont rouges, rougies. Donc la poussière non seulement absorbe, mais elle n'absorbe pas de la même façon tout. Elle absorbe beaucoup plus le visible, le bleu, et beaucoup moins le rouge. Et ça, c'est utile aussi. Donc ça va être la deuxième utilité. C'est qu'on va pouvoir se servir de la différence entre le rouge et le bleu, le rougissement, pour mesurer la quantité de poussière. Donc on a deux atouts pour mesurer la quantité de poussière. Alors, la Voie lactée, ça c'est une horrible galaxie, mais c'est un schéma. La Voie lactée, le problème, c'est qu'on ne la voit pas de l'extérieur, on est dedans. Donc c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec ce petit film qui montre, qui nous fait plonger dans une galaxie. Et là, on arrive, et là, vous voyez que bon, ben, on est dans les nuages, dans les étoiles, et on a perdu cette perspective d'ensemble. Alors, je reviendrai à la fin de l'exposé sur cette petite structure que vous voyez. C'est notre Soleil, et schématisé, la petite traînée qui est derrière, la petite traînée bleue derrière, c'est la traînée du vent qui sort de notre étoile, qu'on appelle le vent solaire, et qui est emmené vers l'arrière le long de la trajectoire du Soleil. Je vais à ça après. Alors, Gaïa. Alors, Gaïa, j'ai mis juste ces deux images ici qui montrent un peu l'énormité de l'instrumentation par comparaison avec la taille humaine. Alors, Gaïa, ici, on voit le montage des miroirs, ici, les deux grands miroirs. Bon, je vais passer un peu là-dessus. Et Gaïa va nous sortir de notre vision embourbée, engluée à l'intérieur de la galaxie. Gaïa va nous permettre, en fait, de la voir comme si on était dehors, de la reconstruire et de la voir comme si on était dehors, ce qui manquait. Et pour ça, l'essentiel, c'est que Gaïa nous apporte la troisième dimension, la profondeur, les distances. Et c'est ça qui va nous sortir, nous permettre d'aller plus loin et de voir la galaxie mieux que la vision actuelle. Alors, le plan focal de Gaïa, ce sont tous les détecteurs. Il y a ici une... ça n'a pas bougé, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, d'accord. Le plan focal de Gaïa, ici, vous voyez tous les détecteurs sur lesquels... c'est l'électronique sur lesquels vont tomber les photons venus des télescopes et qui ont été qui ont convergé à partir des miroirs. Et vous voyez que c'est assez complexe. Il y a plusieurs éléments. Il y a au départ, près de l'entrée, il y a ce qu'on appelle le Sky Mapper. C'est le système qui va repérer les étoiles à l'entrée. Alors, il faut voir que Gaïa, le télescope, tourne sur lui-même. Et donc, en fait, le champ de vue défile. Et donc, ça va défiler sur le détecteur. Alors, au début, cette première partie, les repères. Ensuite, il y a le champ astrométrique. C'est le gros de Gaïa. C'est là que vont être mesurées, grâce à tous ces CCD, les positions extrêmement précises des étoiles. Ensuite, on a deux petits, ici, spectrophotomètres. Ça, ce sont deux instruments, le rouge, le bleu, qui vont disperser un peu la lumière des étoiles. Je vais y revenir après. Et il y a un quatrième instrument, là, je ne vais pas en parler cette fois-ci, qui est un autre spectrographe à haute résolution. Alors, ça, c'est la même chose, mais en schéma. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au cours du défilement, les étoiles, ici, les petits points jaunes, vont passer dans les différents détecteurs et vont être... Le système va repérer certaines à l'entrée et ensuite, la lumière est décomposée. En fait, il y a une espèce de sélection des étoiles à suivre sur les détecteurs jusqu'au dernier. Alors, dans le dernier, on n'en voit que les plus brillantes pour analyser leur lumière. Ah, ça... Oui. Donc, voilà. Là, ça, c'est les quatre... En gros, il y a quatre instruments. Alors, c'est de l'astrométrie globale. Ici, le système non seulement positionne les étoiles extrêmement précisément, mais il passe sur les étoiles et sur le même champ plusieurs fois. En principe, ça peut aller jusqu'à 70 fois. Alors, ça va dépendre de la longueur de la mission. Et ça repasse sur le même champ. Mais sauf qu'au lieu de passer sur un champ dans une certaine direction, la fois d'après, ça repasse sur un champ dans une autre direction. Donc, voilà, le deuxième passage, par exemple. Donc, ça repositionne les étoiles. Le troisième passage. Et à l'intersection des trois passages, vous voyez qu'on a vu les étoiles bouger. Alors, là-dessus, sur ce schéma, bien sûr, c'est évident. On voit qui est qui, c'est-à-dire on voit que cette étoile-là, elle est passée là, puis passée là. Dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, parce que des étoiles, il y en a plein dans le champ, qu'elles sont très proches, mais il y a une analyse extrêmement fouillée, un programme énorme qui va reconstituer les mouvements de chacune et les suivre et voir comment elles ont bougé. Alors, comment elles ont bougé? Voilà trois mouvements observés par Gaïa. Typiquement, ce sont des schémas. Hein. Alors, ce qui, en gros, une étoile sur le détecteur de Gaïa et sur le ciel décrit ce petit mouvement. Alors, le grand mouvement global d'ensemble, c'est ce qu'on appelle le mouvement propre, parce que chaque étoile, en fait, a son mouvement à elle. Vous savez, toutes les étoiles ne bougent pas en bloc. Hein. Il y a un peu des... Elles ne conduisent pas toutes parallèles. Il y a un peu des changements de direction. Donc, chacune a son mouvement, mais superposé à ce mouvement, on a ce qui produit en fait les petites hélices, là, c'est un mouvement circulaire. Et ce mouvement circulaire, peut-être vous en avez entendu parler, ça s'appelle l'effet de parallaxe, et il est simplement dû au fait que, en fait, on observe depuis la Terre, et que le long, enfin, autour, pas loin, Gaïa est pas à la Terre, mais pas très loin, et que lorsque... Pendant six mois d'écart, en gros, un objet qui est à une certaine distance, en fait, on ne le voit pas depuis le même point, et donc on le voit avec un angle légèrement différent. Bon, ça, vous connaissez, c'est aussi le principe de la vision, etc. Alors, bien évidemment, on n'a pas d'objet aussi près que l'étoile bleue que j'ai mise, hein, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est que l'angle de parallaxe. Et on voit avec ce schéma que plus un objet sera loin, plus l'angle sera petit. Or, Gaïa veut mesurer des objets extrêmement loin. Donc, il faudra qu'il soit capable de mesurer des angles extrêmement petits, pas du tout comme le gros angle que j'ai mis là, hein. Alors, pour vous donner une idée, vous rappelez les performances de Gaïa. Alors, Gaïa descend à la micro-arc-seconde, au millième de seconde d'arc. La seconde d'arc, c'est déjà un degré divisé par 60, redivisé par 60. Donc, pour vous rappeler, 30 minutes, c'est la Lune. Une milliarc-seconde, c'est-à-dire un millième de seconde d'arc, c'est un homme assez grand sur la Lune. Et une micro-arc-seconde, c'est-à-dire, donc, c'est le degré divisé par 60, encore par 60 et encore par 1 million. Ça, c'est à peu près un petit rosier sur Mars. Donc, vous voyez que c'est d'une précision énorme. Alors, Gaïa fait un relevé. Alors, ça, c'était au moment de la sortie du catalogue DR2, le deuxième. Et contrairement à ce qu'on peut voir, imaginer, donc ça c'est le ciel, et ça n'est pas une image. En fait, c'est une reconstitution. La couleur ici, noir ou blanc, c'est le nombre d'étoiles que Gaïa a repérées, positionnées à chaque fois. Donc plus c'est blanc, plus il y en a. Et donc vous voyez qu'au centre, on reconnaît la zone très très blanche, là c'est ce qu'on appelle le bulbe de la galaxie, c'est une zone où il y a énormément d'étoiles, et on reconnaît le plan de la galaxie est aplati, hein, on reconnaît le plan, et on voit effectivement des traînées noires, et ça c'est ce que je vous ai montré sur l'autre galaxie, ces traînées noires, ce sont des régions où les étoiles qui sont loin, on ne les voit pas parce que il y a de la poussière de vent qui a absorbé leur lumière. Alors en même temps, Gaïa donne de la couleur à tout ça, c'est pas seulement du noir et blanc, ça c'est la même reconstitution, mais grâce aux deux spectromètres et aux mesures des différentes luminosités dans le rouge et dans le bleu, on peut savoir si une étoile est rouge ou bleue, on peut avoir sa couleur, donc ça c'est le ciel Gaïa reconstitué avec la couleur des étoiles. Les rouges sont les géantes rouges. Les étoiles qui sont très... Pour voir loin, il faut que les objets soient lumineux. Et les étoiles les plus lumineuses, c'est les géantes qui sont rouges. Donc c'est pour ça qu'on a une majorité de couleurs rouges pour les étoiles qui sont loin. Et les bleus sont plutôt devant. Ah, vous pouvez, si vous connaissez un peu, vous voyez ici les deux taches, c'est les nuages de Magellan, le grand nuage et le petit nuage. Et si vous avez de bons yeux, à côté du petit nuage, il y a un petit point, là, c'est un amas globulaire. Autour de la galaxie, il y a un certain nombre de petites purées d'étoiles, là, des amas, et ça c'est l'amas du Toucan, qui est très très massif, qui a jusqu'à 1 million d'étoiles dans un tout petit volume, on le voit ici tout près. Alors pour vous convaincre que c'est bien de la poussière, entre les étoiles et que c'est bien associé au gaz, on peut comparer ça à l'émission du gaz de la galaxie, l'émission du monoxyde de carbone qui émet dans la gamme radio qui a été observée par le satellite Planck. Et donc, vous voyez tout de suite que les formes sont les mêmes. C'est-à-dire que là où il y a de l'émission du gaz en lumière bleue, là, qui est ici dans le... Donc là, la poussière, en haut, la poussière. Mais sauf que en haut, ça absorbe, tandis qu'en bas, ça émet. C'est-à-dire, en haut, la poussière, elle mange la lumière, en bas, ça émet. C'est le gaz qui émet. Alors ça, c'est pour donner une idée de comment Gaïa va mesurer les distances. Les plus difficiles, ce sont les toutes petites, les naines. Et donc là, Gaïa va aller, c'est une image d'une galaxie, hein, et on a mis le Soleil ici et positionné là. Et donc on voit que, par exemple, à cette distance-là, c'est-à-dire à la moitié de la galaxie, on arrivera à 20% de précision sur les distances pour les petites naines. Par contre, pour les géantes, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer des distances des géantes, même à l'autre bout de la Voie lactée. Alors, un petit retour sur la poussière, parce qu'on en a besoin pour la suite. Les grains de poussière, en fait, arrêtent la lumière et la rediffusent. Donc, il y en a une partie qui rentre dans le grain, qui le chauffe, et il y a une partie qui est rediffusée. Mais la partie qui est le plus fortement absorbée et rediffusée, ici, c'est la partie bleue. Et donc, ça va produire ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça va être le responsable du rougissement. Donc, les grains rougissent. Et ça, c'est embêtant. Pourquoi ? Parce que... c'est embêtant. On pourrait se dire, au départ, au fond, je vais me servir de ça, c'est très bien. Et donc, si j'ai une étoile ici, donc je prends l'exemple d'une étoile qui a une distribution de lumière, hein, donc ça c'est ce qu'on appelle un spectre, hein, donc une distribution de lumière d'une étoile, donc à gauche c'est le bleu, à droite c'est le rouge, l'ultraviolet, le rouge. La distribution de lumière d'une étoile, elle est ce qu'elle est, à la sortie de l'étoile, elle est ce qu'elle est, et c'est par exemple ici la courbe bleue. Une fois passer dans un nuage de poussière, ça va donner la courbe rouge en dessous. C'est-à-dire que dans le bleu, ici, vous voyez la dégringolade. Alors, ce n'est pas une échelle linéaire, hein, c'est des logarithmes. Donc, dans le bleu, ça dégringole. Dans le rouge, si on va vers l'infrarouge, ça bouge très peu. Et donc, on va se servir de ça, mais il y a quand même un petit problème. C'est que les étoiles elles-mêmes, elles ont des courbes de lumière qui dépendent de leur température. C'est-à-dire que les étoiles bleues en haut, elles ont beaucoup d'émissions dans le bleu et ça, le spectre descend, tandis que les étoiles rouges émettent, c'est décalé, et elles émettent très peu dans le bleu et c'est décalé vers le rouge. Alors pourquoi c'est embêtant ? Il y a un mélange des deux choses là qui va produire une dégénérescence. Alors comment ? C'est ce qu'on appelle la dégénérescence, température, rougissement. Alors imaginez qu'on voit un bout de spectre, c'est-à-dire on mesure la distribution de lumière dans le visible. Ok, on se dit, voilà, mon étoile, ça va me permettre de savoir si c'est de quel type elle est, de mesurer sa température. Sauf que on ne peut pas savoir a priori, si on n'a que ça, si c'est une étoile rouge, froide, et qu'il n'y a pas eu de changement, donc j'ai rajouté son spectre sur les deux côtés, ou dans l'UV et dans l'infrarouge, mais ça pourrait être aussi une étoile qui était au départ très bleue, avec un spectre, la courbe bleue, mais qui a été basculée, où il y a eu une dissymétrie qui a été plus mangée dans le bleu que dans le rouge. Et on ne sait pas laquelle des deux solutions est la bonne. Mais heureusement, et c'est ça aussi, c'est une des choses qui va beaucoup aider les analyses de Gaïa, heureusement, dans l'infrarouge, donc dans la partie droite, dans l'infrarouge, ça change tout, que ce soit une étoile bleue ou une étoile rouge, et là, il n'y a pas de changement d'absorption. Donc, si on a... donc ça aussi, ça c'est pour montrer que dans le visible et dans l'infrarouge, on n'a pas du tout la même chose. J'ai dû faire une inversion. Donc ici, la partie visible nous va être donnée par Gaïa, et la partie infrarouge. Heureusement, on a un relevé de à peu près 400 millions d'étoiles qui a été fait dans l'infrarouge, dans plusieurs bandes spectrales, qui s'appelle le relevé TOUMAS, et donc qui va être croisé avec, qui est croisé avec Gaïa. Et donc, pour toutes les étoiles de Gaïa, on a la contrepartie infrarouge. Donc, on va se servir des deux. Alors, je reviens là-dessus. Oui, ça, c'est, vous connaissez sans doute les fameux piliers de la création, ce qu'on appelle les piliers de la création. Donc, ça, c'est deux images de Hubble. La première, on la connaît bien. La deuxième, on la connaît un petit peu moins bien parce que c'est aussi Hubble qui a une caméra aussi dans l'infrarouge proche. Et vous voyez que ça change tout. C'est-à-dire que ces piliers très obscurs, c'est la puissance de l'infrarouge, quoi. On voit au travers et on voit toutes les étoiles. Donc le compagnon précieux de Gaïa, c'est les relevés infrarouges. Enfin, pour ce qu'on veut faire. Alors, mes compères. C'était un travail qu'on fait depuis plusieurs années. Alors, Karine Babusio est à Grenoble, à l'IPAG. Elle est une spécialiste de photométrie stellaire. Et donc, elle a utilisé tout ce qui était disponible pour le plus grand nombre d'étoiles dans les couleurs de Gaïa, dans les bandes visibles de Gaïa, les luminosités Gaïa, les luminosités dans l'infrarouge. Et elle a essayé de reproduire parce qu'elle, à partir des, on connaît bien les modèles, on sait qu'une étoile, il y a un certain nombre de catégories d'étoiles dans leur vie, et on connaît les lois entre les couleurs. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Et donc, elle a cherché quel était le type spectral de l'étoile, quelle était sa température, quelle est sa structure, et quel est son rougissement. Et comme elle a l'infrarouge et le visible, ça lui a permis de lever la dégénérescence. Et donc de mesurer l'extinction pour 35, alors le dernier c'était 35 millions d'étoiles. Alors ensuite, on a rajouté 6 millions d'étoiles de relevés spectroscopiques sol, différents relevés. Alors c'est beaucoup plus facile quand on fait de la spectroscopie sol, parce qu'on voit toutes les raies de l'étoile, là je passe un peu vite là-dessus, mais on a sa carte d'identité, donc on sait sa température, tout. Donc là on peut très bien mesurer son extinction. On rajoute à sa carte d'identité, on rajoute les luminosités, et on mesure des extinctions. Donc là, on a rajouté 6 millions avec des choses très précises. Alors les relevés, c'est des relevés, peut-être vous en avez entendu parler, c'est des grands relevés au sol. Certains de l'ESO, d'autres non, américains. Et donc, on a pris aussi leurs distances. Et bien entendu, dans chaque cas, on prend les distances de Gaïa ou recalculer. Ensuite, on a fait toute une intercalibration de toutes ces mesures assez fines. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle une inversion, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Et ça, c'est mon collègue Jean-Luc Vergely, qui est un grand spécialiste de ces techniques de tomographie par inversion. Qu'est-ce que c'est que la tomographie ? Qu'est-ce que c'est que l'inversion ? Alors, on voit sur ce schéma des étoiles, j'en ai mis que 5 hein, pour pas compliquer. Donc on a des étoiles et ces étoiles, on voit que leur lumière est, à l'arrivée à l'observateur, leur lumière, j'ai mis des petits signes, est rougie ou non rougie. Quand c'est jaune, ça veut dire que la lumière de l'étoile n'est pas affectée. Quand c'est rouge, ça veut dire que la lumière de l'étoile est devenue très rouge. Et j'ai mis la même couleur sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On a des étoiles comme ça, on connaît leur position sur le ciel, on connaît leur distance, on sait de combien elles sont rougies, donc on sait combien il y a de poussière entre nous, Soleil, et l'étoile. Et ce qu'on voudrait, c'est les petits points d'interrogation, c'est-à-dire c'est reconstituer où sont les poussières, les nuages de poussière. Donc voilà, des petits nuages. Alors j'ai fait exprès, parce que c'est pas simple, hein, les nuages interstellaires, il y a des zones denses, pas denses. Donc voilà, des nuages. On voudrait ça. Sauf qu'avec ce type d'étoile-là, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir aller très loin. On va simplement pouvoir dire par exemple, comme celle-ci ici n'est pas absorbée, bon, il n'y a rien là. Ou celle-ci n'est pas absorbée, il n'y a rien là. Mais ce nuage, par exemple, on ne va pas pouvoir, celui-ci en haut, au fond, avec uniquement ces étoiles-là, on peut juste dire qu'il y en a un, mais on ne sait pas s'il est près ou loin. Par contre, si on rajoute, et on en rajoute plein, si on rajoute des étoiles, par exemple en haut, sur la même direction 1, 2, 3, on voit que La 1 et la 2, elles ont le même rougissement. Donc ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu de changement. La lumière n'a pas changé. Et la lumière est la même de la 2 que de la 1. Donc il n'y a pas de nuage. Par contre, entre la 2 et la... Entre la 2 et la 3, on voit que là, il y a un gros changement. La 3, il n'y a pas de rougissement. Donc, il y a un nuage. Pareil pour, par exemple, ici, dans une autre ligne de visée, où c'est très rouge, puis moins rouge, puis jaune. Donc là, on sait qu'il y a deux nuages. C'est-à-dire, c'est décomposé en deux morceaux. Il y a un nuage qui a fait un peu rougir. Donc, voilà. On va se servir. Alors, évidemment, là... En fait, on en a des millions et dans toutes les directions et à toutes les distances. Et donc, on va pouvoir reconstituer les nuages. Alors, pour ça, juste un petit problème technique, c'est que l'espace en trois dimensions, c'est grand, que le nombre d'étoiles est quand même limité. Et donc, en fait, quand on fait toute la difficulté dans ces inversions, on est obligé de faire quand même certaines hypothèses, on est obligé souvent de lisser un peu. Qu'est-ce que ça veut dire lisser ? Ça veut dire qu'on impose que deux points, ici j'ai mis un petit P et P', que deux points dans l'espace, en trois dimensions, qui sont assez près l'un de l'autre, on impose que la région où ils sont, les deux régions où ils sont, ont des quantités de poussière, donc des rougissements de la lumière qui passe par là, du même ordre de grandeur. On lisse. On ne permet pas des variations très très grandes. Pour les points tout près. Alors, je passe ici. Pour les gens qui sont intéressés, ce sont des techniques... j'ai mis les... Parce que ce sont des œuvres majeures. C'est dérivé, ces techniques, de la sismologie, en fait. Et le grand papier pionnier de ces techniques, c'est Tarantola, qui était à l'IPG, à Paris, et Valette, qui est à Grenoble. Et donc, c'est eux qui ont mis au point ce genre de technique. Et en fait, c'est applicable au milieu interstellaire. Mais c'était pour la sismologie, pour interpréter les propagations des ondes et en déduire la structure des planètes, du cœur central de la Terre, etc. Donc voilà, on utilise ces techniques-là, on impose un certain lissage. Et voilà le résultat, c'est une carte en trois dimensions, donc, où en chaque point, on a quantifié en fait, la force avec laquelle la lumière qui passe par là va être affectée, va être rougie, et éteinte et rougie. Donc quand c'est marron, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poussière et que la lumière est très affectée. Quand c'est mauve, c'est qu'il n'y a rien. Donc la lumière n'est pas... Alors pour vous donner une idée de la taille ici, donc là on a fait plusieurs inversions. Celle-ci là, qui est présentée là, schématisée, elle est sur 6000 parsecs, 6000 par 6000 et 800 en hauteur. Et donc 6000 parsecs, ça fait à peu près 20 000 années-lumière. Donc pour vous montrer là, à quoi ça correspond, on n'est pas encore, on n'a pas fait la Milky Way en entier, pas encore, mais vous voyez à peu près, on arrive... au 5/8 de la distance à la barre centrale. Ici, c'est un schéma de la galaxie, bien évidemment, où on a mis la barre. Et donc là, j'ai superposé, en fait, une coupe dans ce cube, parce que c'est du 3D, mais j'ai fait une coupe dans le plan qui contient le Soleil et qui est parallèle au plan de la galaxie. Donc voilà, voilà ces cartes. Alors... Pour la voir un petit peu mieux, cette coupe, le Soleil, alors ici, il faut quand même que je vous donne un peu le Soleil est au centre, là, ici. Vers la droite, c'est la direction du centre de la galaxie, et vers le haut, c'est ce qu'on appelle le sens de la rotation, c'est-à-dire que ça tourne comme ça. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Vous voyez que le Soleil est dans une région un peu complexe, il y a deux énormes traînées de poussière. Ici, il y a une énorme traînée, les parties noires. Le noir, c'est beaucoup de poussière. Et on voit que la partie ici, ça c'est le bras du Sagittaire. Et la première surprise qu'on a eue quand on a commencé à faire ces cartes, c'est que c'est penché. Parce que normalement, on s'attend... si vous voyez les schémas de spirale, on s'attend à ce que ça tourne comme ça, c'est-à-dire que les choses soient orientées perpendiculairement à l'axe centre de la galaxie Soleil. Mais on trouve des choses qui sont penchées, on a appelé ça le split, parce que ça rejoint les deux bras que je vais vous montrer après. Donc vous voyez, ça c'est les. Alors il y a des grands vides, les zones blanches, c'est des grands vides de poussière qu'on n'explique pas encore toujours très bien. Oui, donc j'ai oublié de dire que là, le Soleil. Là, ici, c'est la même chose, mais j'ai mis j'ai rendu un peu transparent pour que vous puissiez voir sur ce schéma si vous. C'est un schéma qui avait été fait, qui était censé représenter assez bien la galaxie. Bon, bah, les poussières, ça ne marche pas bien. Hein. On ne retrouve pas de spirale. Bon, ceci dit, si vous vous rappelez la première image, on n'est pas totalement surpris non plus. On a vu que les traînées de poussière, elles n'étaient pas toujours bien pareilles, hein, en accord avec le gaz. Et les étoiles. Alors, vu par la tranche, donc là, cette fois-ci, on a notre cube de données, on fait des coupes verticales, comme si on regardait la galaxie de l'extérieur, mais vers la tranche. Et donc là, on voit ici, donc le Soleil est ici au milieu, et vous voyez qu'on a des masses de poussière, c'est bancal. D'un côté, c'est en dessous du plan où est le Soleil, d'un autre côté, c'est au-dessus. Et on est dans une petite cavité qu'on appelle la bulle locale. On n'a pas trouvé mieux. Un truc qui est, que j'ai trouvé très amusant, comment est-ce qu'on peut. Une question qu'on nous pose quand on fait ça, on nous dit mais comment vous pouvez valider. Vous faites une reconstruction, qu'est-ce que vous avez comme moyen de vérifier que vous avez raison? Et en fait, il y en a un, mais qui est totalement surprenant. Qui est d'utiliser. Ça ne marche pas. Oup. Ah oui, j'ai eu un petit. Oui. C'est. Fatigué. Je retourne en arrière. Je n'ai pas été assez patiente. Voilà, alors la réponse. Une façon de valider nos distances, c'est d'utiliser les sursauts gamma. Alors là, je n'aurais jamais cru, si on me l'avait dit il y a quelques années, j'aurais jamais pensé qu'il y avait possibilité de faire ça. Et pourtant, alors, ce qui se passe, c'est que quand il y a un sursaut gamma, donc ces sursauts gamma, vous en avez entendu parler, c'est dans les galaxies lointaines, c'est une explosion, ce sont les événements les plus énergétiques qui soient, et c'est tellement énergétique, ça envoie des rayons gamma très durs, mais ça envoie des X, des rayons X aussi. Et les observateurs de sursauts gamma, donc une fois qu'il y a un sursaut, ils braquent les télescopes X et autres, et ils ont observé des anneaux brillants en rayons X qui augmentent avec le temps. Et ça, ça se passe dans les jours qui suivent le sursaut. Bon, en fait, la raison de ça, de ces anneaux brillants en X, qui suivent les sursauts gamma, elle est dans la galaxie et elle est dans les nuages de poussière. Alors le schéma est le suivant. Donc j'ai représenté, ça c'est un autre exemple de petits anneaux brillants. Bon, c'est un peu difficile à voir, mais il y a des anneaux. Alors j'ai pas de film où on les voit augmenter, hein, mais bon, ils augmentent avec le temps. Alors si on a un sursaut gamma et qu'on a un écran de poussière sur le trajet, c'est-à-dire que la lumière vient d'une galaxie externe, elle arrive, et elle trouve sur son passage, dans notre galaxie, un écran de poussière. Alors, les rayons X sont diffractés, interagissent avec la poussière, et sont réémis. Donc, ce qui va se passer, alors... Il ne faut pas que j'aille trop vite, là. Voilà. Donc, la lumière... Ici se passe le sursaut, voilà. Si le sursaut, la lumière qui arrive du sursaut en ligne directe, la lumière gamma. Non, là, c'est X, pardon. X. Merci, monsieur. La lumière X qui arrive à l'instant que j'appelle T0. Et puis, ça vient tellement loin qu'on peut, en première approximation, tous les rayons sont parallèles, hein, qui arrivent de loin. Donc, le rayon rouge ici, le rayon X rouge, s'il est passé légèrement sur le côté de l'écran, un tout petit peu décalé par rapport à la direction centrale, globalement, si vous faites la somme des trajets, vous trouvez que le trajet global, il est un tout petit peu plus long. Et donc, la lumière qui est passée par là et qui a été diffusée par les poussières, elle est arrivée un petit peu après. Pareil pour... Oups, je fais dans le mauvais sens. Là, par exemple, l'autre, le deuxième rayon est arrivé un peu plus tard encore. Alors, si on a un bel écran de poussière, bien net et tout, ça va être, il y aura une symétrie autour de l'axe, hein, et donc ça va faire un anneau, et au fur et à mesure du temps, on va voir l'anneau de plus en plus grand, parce qu'on va voir la poussière qui vient des régions externes, de plus en plus externes. Alors, cette lumière qui est diffusée comme ça, on va pouvoir se servir, en fait, et les lois sont extrêmement simples, on va pouvoir se servir de ces décalages pour mesurer la distance à l'écran de poussière. Alors, ce que par exemple, ici, là, voilà, dans le schéma en bas et à gauche, les observateurs de rayons X dessinent en fonction du temps le diamètre de l'anneau en fonction du temps. Donc, ça donne ces deux barres ici. Donc, ils disent, ah ben tiens, il y a deux nuages de poussière ici à des distances différentes. Et le décalage et la façon dont l'anneau grandit avec le temps impose la distance de l'écran de poussière par rapport à nous. Donc, ça va donner la distance d de l'anneau. Donc, en fait, là, par exemple, ils voient deux pics, donc il y a deux anneaux. Et ils donnent des distances très, très précises pour le pic de l'anneau. Et pourquoi c'est précis ? Ben, il n'y a aucune hypothèse. Il y a la seule quantité qui compte dans le calcul, c'est la vitesse de la lumière. On ne peut pas dire que la vitesse de la lumière soit très incertaine. Donc, en fait, ça veut dire que on va avoir une idée assez nette et sans problème, sans incertitude des distances aux écrans de poussière. Alors, malheureusement, des sursauts gamma, il n'y en a pas tant que ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Évidemment, on s'est précipité sur nos cartes. On a été chercher tout ce qu'il y avait comme sursauts gamma et comme... Alors, par exemple, ici, j'ai représenté dans une coupe verticale dans notre cube de poussière. C'est représenté ici, c'est schématisé ici en rouge, hein. Et donc on voit les nuages, on a nos nuages ici de poussière marqués en noir, et la ligne ici, c'est la direction du sursaut. On est dans le plan du sursaut, et ça, c'est la direction du sursaut. Et donc, la communauté X nous dit, vous devez avoir des écrans de poussière à telle et telle distance, donc il n'y a plus qu'à aller voir dans les cartes. Et effectivement, le premier pic qui est assez... Le premier pic qui est très net ici, qui est à 570 parsecs, effectivement, on a un beau petit nuage bien concentré ici. Et le deuxième ici, il correspond à cet amas de poussière. Alors, le deuxième, il est très étalé. Donc, c'est normal que ça donne une région un peu plus grande. C'est pas toujours... Évidemment, les écrans de poussière ne sont pas toujours parfaits. Donc, on en a... Alors, ici, ils en ont fait sept écrans de poussière. On voit les cinq premiers sur une de nos cartes, et on voit d'autant mieux les premiers, parce qu'ils sont, quand c'est bien isolé, bien net, ça marche toujours très très bien. Voilà, d'autres cas. Bon, je vais passer, hein, c'est le principe qui est. Alors, on est satisfait parce que ça valide un peu nos cartes, et donc je vais passer aux applications dans un deuxième temps. Guillaume, tu me dis où j'en suis là ? D'accord, ok. Alors, donc, les applications, à quoi ça sert de faire ces cartes d'extinction ? C'est un outil très général, c'est-à-dire que, d'abord, les gens aiment bien, quand ils observent un objet, ça les intéresse de savoir combien il y a de poussière devant, comment la lumière est affectée, etc. L'environnement, est-ce que c'est dans une bulle, est-ce que c'est dans un nuage, etc. Ça sert aussi à la propagation des particules énergétiques, à la propagation des photons, enfin, ça sert à plein de modèles. Bon, je vais prendre rapidement des exemples. Alors, le lien avec les étoiles jeunes, vous savez que les étoiles naissent donc dans les concentrations de nuages, dans les nuages denses. Alors, ça, on avait déjà vu, hein, que alors, j'ai mis sur ce schéma, sur la carte, j'ai mis les quatre bras tels qu'ils sont supposés être les bras, qui sont, d'après d'autres observations, les bras locaux. Donc, il y a ici, le bras local au centre, celui qui passe près du Soleil. Ça, c'est le Sagittaire Carens, c'est l'Écus, et ça, c'est Percé, vers l'extérieur. On y voit, franchement, c'est pas clair, hein, on voit pas tellement d'associations. Quand on regarde les étoiles jeunes, ce n'est pas le cas. Hein. Les étoiles jeunes, ça c'est un catalogue qui est sorti grâce à Gaïa aussi, récemment, qui donne bien les distances. Ça c'est un catalogue d'étoiles jeunes, et vous voyez que là on retrouve quand même des bras, on commence à retrouver les bras. Et si on met les deux ensemble, alors ça, sur la carte j'ai mis les étoiles jeunes. Alors c'est, on vient de le faire là, hein, c'est tout frais. Et alors c'est assez, les résultats sont assez contrastés parce qu'il y a des régions où les étoiles les plus jeunes, c'est-à-dire qui ont moins d'un million d'années, les bleues, les étoiles O, massives, on voit qu'elles sont encore dans leur cocon de poussière, mais pas partout. Donc par exemple ici, elles sont dans le bras du Sagittaire. Ces étoiles bleues, là, elles sont en plein sur des bras de poussière. Par contre, ici, on a une bulle absolument gigantesque. Et là, il y a eu toute une flopée des générations et des générations d'étoiles. Il y a des jeunes, des vieilles, etc. Et ces étoiles ont soufflé toute la matière autour d'elles. Donc, ça a créé cette immense bulle ici. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, ce genre de carte va pouvoir être combiné aux poussières pour essayer de comprendre comment l'histoire, comment ça, les étoiles, où il y a eu des formations, des destructions, etc. C'est l'interaction entre les étoiles. Alors, une autre surprise, c'est de la tôle ondulée. Si on regarde sur la tranche des morceaux dans notre cube de poussière, alors, comme ça, là, j'ai placé un œil ici, on prend des tranches verticales et on regarde de biais. Si on prend des tranches, je les ai prises un peu n'importe où, c'est la trace des tranches dans le plan horizontal. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que la poussière, elle n'est pas bien, bien plate, bien étalée, c'est ondulé. Et cette poussière, comme s'il y avait une espèce de sinus, enfin de sinusoïde. Et il se trouve que cette crête à crête, l'amplitude de cette sinusoïde, c'est à peu près 300 parsecs, c'est-à-dire 900 années-lumière, quelque chose comme ça, et 350. Et ça, c'est à rapprocher d'un des résultats spectaculaires de Gaïa. Gaïa a observé les étoiles proches, parce qu'en plus d'avoir leur mouvement sur le ciel et leur distance, il a le troisième spectrographe qui va permettre de voir leur mouvement radial. Donc en fait, pour les étoiles brillantes, proches, Gaïa mesure tout, comment elles bougent, et en trois dimensions, et leur distance. Et ils se sont aperçus, on appelle ça l'escargot de Gaïa, ils se sont aperçus qu'en fait, il y a une espèce de mouvement comme un ressort quoi, périodique. Alors c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'en fait ici, on représente ici dans l'axe à gauche, c'est la vitesse des étoiles verticales. Dans l'axe en bas, c'est leur hauteur, c'est la hauteur. Et la couleur, c'est leur vitesse horizontale. Bon, il n'y avait pas de raison que ça fasse. Quand ils ont eu ça, ils ont cru au début, les équipes de Gaïa ont cru qu'ils avaient fait une bêtise quelque part. Mais c'est réel. C'est une trace d'oscillation. Et ces oscillations, il y a des gros débats aujourd'hui pour savoir à quoi elles sont dues. Il y a deux écoles. Une école qui dit que c'est simplement des effets de résonance et de perturbation par la barre centrale et c'est de la dynamique compliquée, mais c'est de la dynamique. Et puis, il y a une école qui dit que c'est comme quand on lance un caillou dans l'eau. Il y a eu un passage. S'il y a eu un passage d'une galaxie externe, quelque chose qui a traversé la galaxie, ça a mis en branle, en fait, des oscillations des étoiles. Or, il se trouve qu'il y a cette galaxie naine du Sagittaire, vous en avez peut-être entendu parler, dont on peut reconstituer aussi maintenant, grâce en grosse partie à Gaïa, le mouvement mais en remontant très très loin. Et le dernier passage de cette galaxie naine correspondrait, dans les modèles qui ont été faits par des spécialistes, avec à peu près 900 millions d'années, le dernier passage de cette galaxie naine aurait provoqué ces petites vagues, ces vagues dans les étoiles et dans le gaz et poussière. Voilà. Alors, je vais finir par un zoom sur notre petit coin de galaxie, tout près du Soleil. Donc, ça, c'est la carte la plus grande qu'on ait faite, vu du dessus et vu de la tranche. Et ça, ça fait 10 000 parsecs, donc à peu près 30 000 années-lumière. On voit très bien l'énorme bulle dans le bras de Persée. Cette fois-ci, 6 000 parsecs. Puis, le Soleil est toujours au milieu. Hein. Puis, 3 000 parsecs. Alors, il faut que je dise que là, ces c'est pas la même inversion, ce sont pas les mêmes cartes. Là, comme, parce que ça coûte des temps de calcul quand même importants, donc quand on fait une carte plus petite, on peut se permettre de lisser moins. Et donc, on fait plus de calculs, mais on a des choses plus précises. Et on peut le faire parce qu'on a plus d'étoiles aussi. On est limité par les... Donc, 1500 parsecs, et là, je finis par 750 parsecs. Et là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la bulle locale. On voit que le Soleil, au milieu, il est dans un tout petit nuage, enfin, un tout petit paquet de nuages, une zone un petit peu de poussière, et au milieu d'une grande bulle. Vu de la tranche, moi, j'appelle ça la crevasse, hein, c'est-à-dire ici, on voit que ça, c'est le Soleil, ce petit nuage, et ça, c'est vers le pôle Nord, ça, c'est vers sort de la galaxie vers le haut, on sort de la galaxie vers le bas. Donc on est dans une région bien, bien particulière. Alors si on zoome sur le tout petit carré ici, ça va rappeler des souvenirs à quelqu'un qui est dans la salle. On arrive à ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Oups ! On arrive là à ce petit paquet de nuages, ça c'est des travaux qui ont été faits ici, avec des collègues de l'IAP, il y a longtemps. Alors, en fait, les choses n'ont pas tellement changé. Hein. On voit que le Soleil est dans un petit nuage qu'on appelle le nuage local, c'est très original, et il est en train d'en sortir, c'est-à-dire les nuages bougent comme ça, le Soleil, par rapport à eux, avance, et il va arriver dans un autre nuage. Ça n'a pas changé, les formes ont un peu changé, il y a eu des travaux depuis, hein, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc, voilà nos petits nuages. Alors, on est très heureux d'être là. On a de la chance, plutôt, je devrais dire, d'être là. Pourquoi ? Parce que d'abord, grâce au fait qu'on est dans une zone très peu dense, nos nuits sont étoilées. Si on avait le malheur que notre étoile passe dans Barnard 68, 30 magnitudes d'extinction, même les meilleurs télescopes, si on était au milieu, la nuit, on ne verrait rien. On ne verrait pas les étoiles. On ne verrait pas d'étoiles. Ce serait absorbé. Donc nous, on a la chance quand même d'être dans un endroit où il y a des endroits où c'est absorbé, mais c'est des nuages un peu loin, quoi. On a quand même une grande partie de ciel étoilé. Donc on a des nuits étoilées. Alors là aussi, je me permets de reciter le même, Jean Perrin. Ça, c'est une phrase qui était à l'OHP. Que serait devenue une civilisation si personne n'avait jamais vu d'étoiles ? Alors, l'autre aspect, l'autre côté, la chance qu'on a, c'est qu'on a une vue dégagée sur le nord et sur le sud. C'est-à-dire, si on est dans cette crevasse et qui ouvre sur le halo en haut et en bas. Alors ça, c'est très commode. Et ça, c'est très bien pour l'extragalactique, parce que du coup, on peut aller observer mieux. On est moins gêné par les avant-plans. C'est bien aussi pour des gens qui s'intéressent au fond diffus cosmologique, pas tout, mais en particulier sa polarisation. Il faut un petit peu... C'est plus commode quand on a très peu de matière devant soi qui gêne les observations extragalactiques. Voilà, là on a les deux vues haut et bas. Voilà, alors je vais passer là-dessus. Ça c'était pour montrer que les nuages en 2D de Planck, on les voit tous dans nos cartes, tous les filaments. Donc mais c'est un petit peu long, hein, comme je vois que le temps passe. La troisième chance qu'on a d'être dans un petit nuage, c'est que le vent solaire, c'est le gaz ionisé qui sort du Soleil, et ce vent solaire peut nous protéger. Et il peut nous protéger parce qu'on est dans un nuage qui n'est pas trop gros, qui n'est pas trop dense, pardon. Alors, je vais essayer de lancer ce petit film qui montre notre Soleil, le vent solaire qui part du Soleil dans toutes les directions, en bleu, les planètes. On est dans une bulle de vent solaire, la Terre est dans une bulle de vent solaire, on est dans le gaz solaire. Et puis, en fait, le Soleil, on a vu, il se déplace dans notre petit nuage, et donc il y a un moment où le gaz qui sort du Soleil va être arrêté par le milieu traversé. Et donc, on va avoir, c'est ça qui va créer ce que je vous ai montré au début, cette petite traînée du vent solaire à l'arrière du Soleil. Alors, c'est cette structure qu'on appelle, alors en bleu, c'est ce qu'on appelle l'héliosphère, c'est là où il y a du gaz solaire, Et le reste, quand on passe de l'autre côté, on est dans le gaz interstellaire. Et c'est cette frontière que, si vous avez peut-être suivi, les sondes américaines, les sondes Voyager, ont traversé toutes les deux récemment. Et maintenant, elles sont dans la partie interstellaire. Elles ne sont plus entourées du vent solaire. Et donc, si, pourquoi on a de la chance ? Je finis là-dessus. Alors, c'est un schéma pas très joli, hein, mais désolé, j'ai pas beaucoup mieux. Donc, ça, c'est la taille de notre héliosphère. En fait, il y a une espèce d'équilibre de pression. Plus le vent solaire sort avec une certaine pression, comme un jet d'eau, hein, comme un arrosoir, ça part avec une certaine pression. Et plus l'extérieur est dense, plus ça va s'arrêter vite. Donc, si on est dans un nuage peu dense, on a une héliosphère qui a la taille qu'elle a, mesurée par les voyageurs. Si on était dans un... Et alors, donc, les rayons cosmiques, galactiques, sont refoulés par le vent solaire. Et donc, ils n'arrivent pas à l'orbite terrestre. Maintenant, si on traverse un nuage plus dense, l'héliosphère va ratatiner, va devenir plus petite, jusqu'à... ça n'est pas impossible. Dans certains milieux traversés, ça peut faire ça. Ça peut être tellement petit que l'orbite de la Terre est au-dessus, enfin en dehors. Et donc, ça veut dire que l'orbite de la Terre va passer directement dans le milieu interstellaire. Alors, on va plus être protégé des rayons cosmiques de moyenne énergie de la Voie lactée. Alors, c'est pas tellement gênant ça en soi, parce qu'on a notre atmosphère quand même qui nous protège. Mais il y a des calculs. Alors, ils sont complètement passés de mode maintenant. Il n'y a plus rien. Parce qu'on sait qu'on en a pour longtemps, j'ai oublié de le dire, mais on sait qu'on en a pour très longtemps dans des nuages peu denses, mais il y a eu une époque où il y avait des gens qui calculaient l'effet de la traversée d'un nuage très dense. Il peut y avoir des phénomènes de focalisation et d'accrétion de la matière sur l'orbite des planètes. Bon, ça pouvait être embêtant. Il y a des gens qui avaient fait des calculs montrant que ça pouvait être embêtant pour la vie, pour l'atmosphère. Le danger n'existe pas avant quelques millions, enfin, disons, de l'ordre du million d'années, puisqu'on sait, maintenant, on sait où va le Soleil, on sait qu'il en a pour un bon moment à traverser une région peu dense. Donc, il y a d'autres dangers plus proches que celui-là. Voilà. Ça, c'est nos petits nuages. Et je vous remercie de votre attention. Et tout n'est pas fini. Je vous laisse regarder. En haut, c'est les apports de Gaïa dans le dernier catalogue. Et à partir de la barre, c'est tout ce que va donner Gaïa dans 2 mois, dans le 3e catalogue. Donc, vous voyez que y aura de quoi faire, quoi. C'est-à-dire que bon, tout sera à recommencer. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions.
Merci.
Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Je disais merci beaucoup Rosine pour cette présentation et c'est impressionnant de voir comment on arrive à faire la géographie de la poussière là, qui nous entoure dans la galaxie. Alors y a-t-il des questions dans la salle? Il y en a quelques-unes sur le chat aussi, mais on peut commencer par une question dans la salle s'il y en a. Vous pouvez lever le doigt si vous voulez intervenir.
N'hésitez pas.
Alors il y en a une ici, oui.
Merci. Qu'est-ce que la poussière finalement, est-ce qu'on a besoin de connaître sa composition, les éléments, les cristallisations qu'il peut y avoir éventuellement pour mieux connaître son effet ensuite sur tout ça?
Alors, c'est une question vaste. Hein, ça. Bon, et puis en plus, je ne suis pas spécialiste des poussières, mais on sait déjà pas mal de choses sur les poussières à partir justement de leurs émissions, de type d'émission. Dans toutes les gammes de longueur d'onde. Donc il y a des modèles de poussière. Ils sont assez compliqués parce qu'il y a des poussières à cœur plutôt minéral, silicate, fer, etc. Il y a des poussières organiques. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi la mission Rosetta. Dans la comète Rosetta, on a trouvé ça. Il y a des poussières organiques où c'est surtout carbone, oxygène, azote. Bon, il y a plein d'inconnus encore, notamment sur les tailles. Les gros grains, on sait à peu près, à partir de leurs propriétés lumineuses. Les petits grains, il y a plein d'observations. Il y a les grosses molécules qui vont être ensuite agglomérées dans les grains. En radio, on connaît plein de molécules. La partie intermédiaire, qui sont les très petits grains, ça c'est très mal connu, les très petits grains c'est très mal connu. Disons, ce qui est entre les macromolécules et les gros grains, on ne connaît pas bien. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout mon sujet. Hein. Mais c'est sûr qu'on aimerait, c'est important parce qu'ils ne vont pas avoir le même effet sur le refroidissement. C'est important d'essayer de connaître mieux. Alors, une des missions qui serait intéressante, c'est maintenant qu'on sait à quelle distance il faut envoyer une sonde, il y a des projets d'aller mesurer la poussière interstellaire à l'extérieur. Parce que dans le vent solaire, les petits grains de poussière, ils s'ionisent, ils ne rentrent pas dans l'héliosphère, les petits grains. Donc on ne peut pas les mesurer, on n'a pas pu les mesurer. Enfin, il y a des grains qui ont été mesurés, des grains interstellaires qui ont été mesurés, mais c'est vraiment ceux qui ont résisté, c'est des très très gros. Et donc il faudrait aller à l'extérieur pour mesurer toute la hiérarchie de grains. Je vois que quelqu'un veut dire quelque chose. Non ?
Un commentaire en plus.
Oui, petit commentaire. Les grains interstellaires, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous fait. Tout ceci, toute cette matière, toutes les planètes solides sont faites avec des grains interstellaires. Donc c'est quand même assez intéressant soi.
Disons qu'au moment de la formation de l'étoile et des planètes, il y a eu accrétion de tous ces grains et des gaz aussi. Les gaz, et effectivement, c'est ça qui a fait la matière des planètes. Là, on rejoint... Mais bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais...
Alors, il y a une question, un commentaire sur Internet sur le fait que tu utilises Toumas. Donc la personne à l'internaute se dit s'il a bien compris. Est-ce que vraiment sans Toumas, donc les données infrarouges, tu n'aurais pas pu faire ça? Tu n'aurais pas pu utiliser les données Gaïa pour faire les types de mesures que tu avais à présenter? Ou il y aurait eu d'autres moyens?
Il y aurait pas avec autant d'étoiles pour le moment. Alors, quand Gaïa va sortir les couleurs, c'est-à-dire dans le nouveau release, le nouveau catalogue Gaïa, il y aura le résultat des spectromètres, les bleus et les rouges que j'ai montrés. Donc là, déjà, on aura une idée de la température de chaque étoile. Là où on était obligé d'utiliser Toumas, c'est vraiment qu'il y avait cette dégénérescence température rougissement. Maintenant, on aurait pu le faire avec les données spectroscopiques, où là, les 6 millions, il y avait déjà les 6 millions d'étoiles. Mais ça apporte une précision très forte quand même d'avoir... tant qu'on n'avait que les larges bandes, enfin la luminosité dans les larges bandes Gaïa, il fallait avoir Toumas en plus pour mieux contraindre la température, le spectre de l'étoile et la température de l'étoile. Et pas confondre rougeur intrinsèque ou rougeur imposée par les poussières. Quoi. Donc, Toumas a eu un rôle important.
Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle? Oui.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans le dernier schéma,
oui.
Vous avez montré que parfois la Terre n'est pas protégée par le vent solaire.
Oui, c'est-à-dire.
Juste fini. Excusez-moi. Et je me pose la question, selon la densité de la poussière que le système solaire traverse,
oui.
Est-ce que. Moins il y a de poussière, peut avoir une influence sur la température terrestre par rapport à la chaleur qu'émet le Soleil.
Alors, je crois que là, la réponse quand même, les densités sont quand même faibles. Les densités, il faut la matière, même dans les nuages très denses, on reste quand même dans des quantités qui sont faibles. Il n'y aura jamais d'effet direct des poussières. Ce qui peut se passer, ce qui avait été calculé par des collègues américains, c'est ce qu'on appelle la focalisation gravitationnelle, c'est-à-dire sous l'effet de la gravité du Soleil, ça fait un cône, il y a une région où les hyperboles se croisent et ça fait une focalisation. Et là, il y a des zones, une densité qui pique. Et ça pourrait tomber en permanence sur quand la Terre passe dedans, ça pourrait tomber dessus. Mais bon, c'est vraiment des cas extrêmes. La densité, là actuellement, c'est extrêmement peu probable. Il faudrait vraiment traverser un monstre. Là, les densités des nuages normaux, les quantités de grains, c'est infime par rapport à nos densités planétaires. Hein. Ben, pour donner une idée, alors, je parle du gaz, là, hein, dans Barnard, la densité du gaz, c'est 10 puissance 7 par centimètre cube. C'est rien par rapport à notre atmosphère, quoi. Donc, c'est quand même de la matière interstellaire. La matière interstellaire, c'est pas dense. Hein. C'est pas dense. Donc, on est... Bon. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là.
Alors, il y a une autre question sur Internet d'une personne qui demande est-ce qu'avec Gaïa et la prolongation des les observations qui continuent, et donc la précision qui va s'améliorer, est-ce qu'il y aura moyen de faire ce type de travail, de mesure plus loin et de cartographier même toute la galaxie avec ce type de méthode?
Oui, en principe, plus les parallaxes, plus il y aura de parallaxes précis, plus on pourra utiliser d'étoiles. En plus, là, comme je disais, il y aura de nombreuses étoiles pour lesquelles qu'on ne pouvait pas vraiment utiliser parce qu'il y avait trop de doutes sur leur température. Mais là, on aura justement les températures les spectromètres à large bande. Oui, oui, normalement, on va étaler. Je ne sais pas si on ira. Ça va dépendre de l'extension de la mission Gaïa. Moi, je ne sais pas trop combien de temps encore ça pourra. S'ils vont pouvoir l'étendre un peu plus. Parce que plus on étend la mission, plus les parallaxes. Parce qu'on repasse sur les mêmes champs, plus les parallaxes sont raffinés. Mais bon, il y a quand même des limites. Mais on devrait, je pense que ça devrait quand même atteindre encore, ça devrait aller au moins jusqu'au centre et un peu derrière en utilisant les géantes. Il y a des projets. Alors après, il faudrait un Gaïa infrarouge, par exemple. Ça, c'est un des projets du futur qui serait assez génial, c'est-à-dire faire la même chose que Gaïa, mais dans l'infrarouge, quoi. Mais dans le visible et avec Toumas et avec les relevés existants, je pense qu'on doit pouvoir aller au moins deux fois plus loin que ça. Je m'avance un peu peut-être, mais bon, normalement, en travaillant bien. Oui.
D'accord. D'ailleurs, j'y pense au sujet de Gaïa. Tu as montré certains de tes collaborateurs, et notamment Karine Babuzio, là, qui est donc une grande spécialiste de Gaïa. Elle était venue faire une conférence ici même il y a à peu près un an, donc n'hésitez pas, elle est disponible en ligne. C'était en mai de l'année dernière, donc elle nous a fait une très bonne conférence sur Gaïa également. Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle? Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'avais une question. C'est assez curieux qu'il y ait une si faible densité à la position du système solaire. Tous les graphiques que vous avez montrés, finalement, on est d'une zone très peu dense. Oui. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est lié à un système planétaire ou quelles sont les explications probables, s'il y en a?
Alors, c'est une vaste question. Disons que le Soleil est une étoile comme les autres. Un mouvement, il n'y a absolument rien de particulier. Il se trouve qu'en ce moment, on traverse une zone comme ça. Puisque, en fait, tout bouge par rapport à tout. Hein. Les bras évoluent, etc. Il se trouve qu'en ce moment... Ah oui. Oui, il se trouve qu'en ce moment, on traverse, on est dans cette région-là. Et donc, c'est le hasard. Je pense que c'est vraiment le hasard. Maintenant, comme j'ai montré tout à l'heure, le hasard fait bien les choses. Parce que ça aide à... Parce que, effectivement, il n'y a pas eu d'événement. On est dans une région relativement propre qui permet un accès aux observations. Est-ce que c'est... Enfin bon, je dirais pas... le lien avec l'évolution de la civilisation... Enfin, avec la civilisation, j'en sais rien. Hein, je ne veux pas m'avancer... Mais c'est totalement le hasard. Je veux dire, il n'y a rien de spécial qui fait qu'on est dans cette... C'est vraiment le hasard. Une façon de répondre à votre question, le Soleil est né il y a des milliards d'années. En fait, le Soleil, il a déjà fait plusieurs fois le tour de la galaxie. Donc, en ce moment, il passe par là. Mais ça n'a rien à voir avec sa naissance, quoi. Le Soleil a quitté son nuage par an. Il est né dans un nuage qui a collapsé, etc. Mais le Soleil, il a quitté son nuage depuis longtemps. Il est autonome. Hein, et donc, il a vécu sa vie et il est parti. Et donc, c'est le hasard qui fait qu'on passe dans cet endroit-là. Il n'y a pas de particularité. Quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Une autre question, de nouveau, des internautes, qui est peut-être un petit peu liée à ça. Ces structures, elles évoluent dans le temps, on imagine, et puis on sait que le Soleil, le système solaire, est né dans un nuage de gaz, de poussière. Est-ce qu'on peut retracer, trouver une trace, une signature de ce nuage dans lequel le système solaire, et donc nous-mêmes, sommes nés?
Alors, oula, disons que ce qui se fait en ce moment beaucoup avec Gaïa, comme on mesure les mouvements en 3D, on peut remonter l'horloge, c'est-à-dire remonter sur les... par exemple, pour la galaxie du Nel, on remonte les mouvements des étoiles. Mais les mouvements des étoiles, c'est faisable parce que c'est comme des objets libres, ça bouge en dans le potentiel gravitationnel, c'est pas visqueux, quoi. Mais les mouvements remontés dans le temps, les mouvements du gaz et des poussières associées, ça c'est beaucoup beaucoup plus difficile parce que les gaz ne bougent pas comme librement comme un soleil, comme une étoile. Alors donc pour répondre à cette question, non, je crois que remonter vraiment au nuage parental, il y a eu trop de, le soleil est trop vieux pour ça, je dirais. Si on n'était pas loin. S'il était plus jeune, et à cause de son mouvement, on pourrait remonter au mouvement, comme on a vu sur les étoiles bleues là, que j'ai montrées, celles-là, comme avec leur mouvement, on peut retrouver à quel endroit elles sont nées, probablement, et quel est le nuage. Sauf qu'entre-temps, le nuage, il a été un peu soufflé. Mais le soleil, c'est trop loin, quoi.
Typiquement, la durée caractéristique sur laquelle on peut considérer la forme d'un nuage, au bout de combien de temps on ne sait plus rien ?
Là, par exemple, qu'est-ce que je peux dire ? Que déjà, là, quand on prend si on prend les étoiles qui ont moins de quelques millions d'années, on arrive à retrouver les liens. Mais au-delà, même déjà 20, 50 millions, etc., ça commence à devenir difficile, quoi.
Une idée sur quelques millions d'années, donc sur quelques milliards, voilà, là, vraiment, c'est pas, on ne sait pas faire pour l'instant.
C'est difficile, ça. Pour tout ce qui est étoile, oui, mais là, attention, la question, c'est sur le gaz. Oui. Étoile, on pourra remonter énormément, mais c'est en cours. Mais...
Merci. D'autres questions, commentaires dans la salle ? Non ? Allez, encore une ? Oui ?
Bonsoir. Sur l'image en 3D que vous avez montrée de l'extinction,
oui.
On voit beaucoup de structures qui sont radiales par rapport au Soleil. Et c'est peut-être dû au fait qu'on n'observe que d'un seul point de vue. Est-ce que c'est gênant pour étudier la dynamique et tout, ou est-ce qu'on
sait
faire abstraction ?
Alors, il y a quelques... Il y a dans les méthodes, il y a quelquefois... c'est-à-dire, quand on a une incertitude sur la distance... Le code, il peut avoir tendance à, si on ne sait pas si c'est là ou là, il va avoir tendance à faire un truc un peu allongé, si c'est ça que vous voulez dire. Donc il y a sur certaines cartes des artefacts, surtout celles les plus proches, c'est ça que vous voulez dire, les cartes qui étaient tout au... Je remonte. Bon, par exemple ici, non, il n'y a pas de structure... Alors oui, je suis d'accord ici, par exemple, voilà, c'est typiquement le... Où est-ce qu'elle est, ma souris ? Là, par exemple, effectivement, on a des petits effets. Ça, c'est lié à l'imprécision. Là, on doit manquer d'étoiles, et là, ça a un peu étalé radialement. Oh, vous avez l'œil. Mais ça peut faire des petits défauts. Par contre, les grandes structures... Bon, par exemple, ici, ça, c'est pas radial, hein, du tout. C'est la grande structure-là. Elle passe pas par le Soleil. Hein. Ça, c'est vraiment... Et ça non plus. Hein. Ça, c'est vraiment des... Ça, c'est clair. C'est pas des artefacts. C'est pas du tout des artefacts. On arrive à des artefacts quand on pousse un peu trop loin le code, qu'on n'a pas assez d'étoiles ou que les distances ne sont pas assez précises, on étale un petit peu trop l'extinction. Donc ça fait une petite impression d'être allongé, quoi. Mais pas ces structures-là. Ça, c'est l'histoire qui a fait ça, quoi. Donc c'est un mélange à la fois de l'ensemble du mouvement dans le potentiel galactique, les accrétions successives de galaxies externes, etc., qui provoquent toutes ces structures. Et c'est ça que Gaïa va essayer de reconstituer. A déjà commencé, toute l'histoire des accrétions successives qui ont petit à petit aidé à former la Voie lactée. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est encore une fois, là, c'est pas la poussière. Ça, c'est pas...
Il y a pas mal de questions également sur le chat, là, justement sur cette structure, sur cette forme. Il y en a qui parlent de toile d'araignée, ça fait penser à ça. On comprend mal quand même ces formes dans l'histoire. Ça va un peu avec l'idée, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'évolution, qu'on a du mal à bien remonter dans le temps et à prédire dans l'avenir sur les grandes échelles de temps. Cette forme, elle reste assez mystérieuse quand même sur les causes, les processus physiques qui ont mené à ce type de forme.
Alors, les grosses bulles sont les étoiles massives et supernovées. Donc, par exemple, c'est clair que la grosse bulle en haut et à gauche, dans le bras de Persée, là, c'est vraiment... Là, il y a une concentration gigantesque d'étoiles massives, et il y en a eu des générations. Donc là, ça a soufflé. On sait aussi que... Bon, il y a... Alors là, c'est dans le plan. Hein, il faudrait regarder en dessous aussi. Par exemple, dans cette cavité ici, là, celle-ci, là, qui vient presque jusqu'au Soleil, connue depuis longtemps, hein, et elle est pleine de gaz ionisé. Il n'y a plus de poussière, mais il y a du gaz ionisé. Donc là, il y a dû y avoir des étoiles qui ont fait une espèce de vide dans les poussières. Et donc, ouais. Mais c'est vrai que, bon, franchement, on n'est pas encore... on n'en est pas encore au point de tout expliquer, loin de là, hein, loin de là.
Bien, on va peut-être bientôt s'arrêter. Y a-t-il une dernière question dans la salle ? Non ? Bah, je propose qu'on s'arrête là. Merci de nouveau, Rosine. Nous nous retrouvons donc ici même le mois prochain donc pour la conférence de Florent Delfly consacrée aux débris spatiaux intitulée « Une histoire des collisions d'orbites ». Vous savez peut-être aussi que l'Institut d'astrophysique de Paris propose un deuxième cycle de conférences le troisième mardi de chaque mois qui est intitulé « Carte blanche ». Et donc la prochaine sera le 19 avril prochain, donnée par Jean-François Delfrécy avec comme titre « Sciences, politique et société, l'exemple de la Covid-19 ». Tout un programme. Et donc, eh ben, je vous remercie pour votre attention. Merci à ceux qui êtes venus. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt. Bonsoir.
Merci à vous. Bonne soirée.